À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.
Bonjour Chantal, ou bonsoir plutôt, bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir Jean. C'est peut-être un peu tôt pour dire bonsoir.
Je sais
que le temps est bas, mais...
Oui. Et on est que tous les deux aujourd'hui.
On va essayer de meubler.
Annie, Alain sont je ne sais où. Et voilà, on a donc décidé de parler essentiellement de Venise.
Oui.
Alors avant, je ne sais pas si on donne quelques...
Eh bien, vous avez peut-être quelques nouvelles politiques sur l'Italie.
Oui, on est dans une situation intermédiaire, donc dont il est difficile de parler après les élections administratives donc du mois dernier, dont on a parlé. Ce qui se passe, c'est que on est dans une période où Berlusconi est quand même affaibli, parce qu'il a gagné les élections régionales de façon limite, mais c'est plus la Ligue que lui qui l'a emporté dans le Nord en particulier, en Vénétie et en Piémont. Et on s'aperçoit que les scandales qui étaient sous-jacents commencent à éclater partout. Cette semaine, le ministre du développement industriel, M. Scajola, après des semaines de polémiques, a dû donner sa démission parce qu'il est compromis dans un achat d'appartement, un appartement de luxe qui donne sur le Colisée à Rome. Donc, c'est pas un quartier pauvre. Et qu'il a acheté grâce aux subventions... aux dons d'hommes d'affaires pour 900 000 euros sur 1 500 000 à peu près.
C'est une paille.
Oui, pour des dons d'hommes d'affaires à qui, comme ministre du développement industriel, il a fait des faveurs. Donc c'est carrément... Alors il a nié pendant longtemps en disant non, c'est un complot politique contre moi, Berlusconi l'appuyait. Et puis finalement, les témoignages sont tels. En particulier, on s'est aperçu que par la Deutsche Bank... On a le droit en Italie de verser sans contrôle un chèque jusqu'à 12 500 euros. À 12 500 euros, il n'y a pas de contrôle. Au-delà, à partir de 13 000, il y a un contrôle. Alors, la Deutsche Bank lui avait versé l'argent par 80 chèques de 12 500 euros. C'est extraordinaire.
Non, mais c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Oui.
On arrive à des magouilles.
Oui,
80 chèques de 12 500 euros. Donc, ça a quand même 80 chèques qui viennent comme ça. Ça a quand même pour payer un appartement. Ça a quand même. Et puis, les témoins sont venus témoigner en disant ben oui, lui, il a dit non, j'ai pas reçu d'argent. Ou alors, si j'ai reçu d'argent, je m'en suis pas aperçu. Il a commencé par.
Oui, enfin, c'est une défense un peu légère.
Et oui, c'est
attristant.
C'est très attristant pour le comportement des ministres et la vie démocratique, quoi. Parce qu'il n'y a plus de contrôle sur rien, on peut magouiller sur tout. Donc finalement, face au témoignage, il a dit « Je dois démissionner du ministère pour ne pas compromettre le ministère et surtout pour pouvoir me défendre librement en citoyen indépendant. » Donc il va être en procès et il a dû démissionner. Mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont été compromis. Il y en a dans les Pouilles, il y en a en Sardaigne. Il y en a en Sardaigne qui a un conseiller régional qui a aussi un gros problème de magouilles de ce genre, quoi. Mmh. Donc ça, c'est un premier élément de la situation. Et puis, probablement, et c'est lié aussi au progrès de la Ligue du Nord, on va à une rupture entre Fini, donc avec entre les anciens de Alleanza Nazionale et Berlusconi. Fini a rompu, a critiqué ouvertement la politique de Berlusconi sur un certain nombre de points, dont la réforme de la justice, parce que Fini, certes, est un ancien néo-fasciste converti à la démocratie, très sincèrement, probablement, mais il a le sens de l'État. Et il supporte très mal qu'un chef d'État travaille contre l'État et passe son temps à dire du mal des magistrats, par exemple. Passe son temps à vouloir réformer la justice pour la soumettre au pouvoir exécutif.
Et Fini représente quel courant politique ?
Alors Fini était, je ne sais pas où on en est, le vice-président du PDL et du Popolo della Libertà, donc le parti berlusconien, puisque... Donc après la guerre, je reprends rapidement, après la guerre... La Constitution, en 1946-48, interdit la reconstitution d'un parti fasciste. Alors, les anciens fascistes, qui sont restés convaincus que c'était une bonne chose, se retrouvent dans un mouvement qui s'appelle le MSI, Movimento Sociale Italiano. Et puis, le MSI va connaître des scissions entre... Il avait déjà une double figure, le MSI... Il y avait la figure parlementaire, costume trois pièces, etc. Et puis il y avait la figure terroriste. Les militants du MSI ont été compromis dans beaucoup d'opérations terroristes dans les années 60-70, en particulier. Parce qu'ils pensaient qu'il fallait jouer la carte militaire, la carte de l'action violente. Et... Il y a eu un courant modéré qui va se développer et dont Gianfranco Fini était un des leaders. Il a été un jeune fasciste très, très violent. Et puis, il a évolué et après une époque où il disait que Mussolini était le plus grand homme d'État du siècle, il a fini par dire que c'était la plus grande catastrophe du siècle. Ce qui a valu à la descendante de Mussolini, à Alessandra Mussolini, de quitter le parti d'ailleurs, pour former son propre groupe. Puis maintenant, elle s'est réintégrée dans le parti de Berlusconi, parce que son groupe était tellement petit qu'elle n'avait aucune chance d'y être élue. Donc il faut ce qu'il faut pour rester députée du Parlement italien. Et Fini a renoncé, par exemple, à l'antisémitisme mussolinien. Il est allé en Israël, il a réellement fait une conversion à la démocratie, mais il a hérité du fascisme, le centralisme, qui était le fait du mouvement, et le sens de l'État. Fini est un véritable homme politique, à la différence de Berlusconi, qui est un homme d'affaires pour qui l'Italie doit être une bonne affaire, quoi.
C'est ça, oui.
Fini, non, a le sens de l'État. Et donc, actuellement, il est en rupture ouverte avec Berlusconi. Probablement courant mai, il va refonder son propre parti. Et donc, ça va affaiblir considérablement le PDL. Alors, comment tout ça va évoluer ? Progrès de la Ligue dans le Nord, rupture Berlusconi-Fini. Il est quand même président de la Chambre.
Est-ce que Fini peut éventuellement se rapprocher de la Ligue du Nord ?
Surtout pas.
Surtout pas.
Surtout pas.
Pas quelque chose que l'on peut redouter.
Ah non, parce que Fini est anti-sécessionniste. La Ligue du Nord est sécessionniste. La Ligue du Nord répudie l'État italien.
Oui.
Elle veut, en fait, profondément, et de temps en temps, on parle encore, la division de l'Italie en trois parties. Il y a le Nord, la Padania.
Oui.
Il y a le centre qu'il appelle l'Étrurie. Et puis il y a le sud qui est le pays des Terroni.
La Ligue du Nord, c'est aussi extrême droite. C'est proche aussi du fascisme.
C'est l'extrême droite. Oh, c'est,
Enfin, il y a des gens, par exemple, le maire de Trévise, qui est connu pour...
Pour son racisme.
Oui.
Alors, ça peut être un point commun avec le fascisme, effectivement. Mais sinon, ce qui caractérise la Ligue du Nord, c'est surtout la xénophobie, le racisme, à tous azimuts, la défense de la pure race italienne, ce qui ne veut rien dire, parce qu'on
oui.
ne sait pas bien oui. ce qu'est la pure race italienne, comme on ne saurait pas quelle est,
en France,
quelle est la pure race française.
Exactement. Exactement.
Quel d'entre nous
aurait beaucoup de mal,
n'a
oui.
pas un ancêtre
ah bah ça, c'est clair, oui.
immigré,
ah oui, italien ou polonais,
polonais, ou espagnol,
portugais,
oui, arabe,
et oui, maintenant,
etc.
Oui.
Mais il y a beaucoup d'éléments de la Ligue, par contre, qui sont antagonistes avec l'idéologie fasciste, et en particulier ce refus de l'État italien, alors que le fascisme était au contraire nationaliste
oui.
et centralisateur. Mmh. C'était le sens de l'État, Rome capitale, c'était fondamental, etc. Donc sur ce point, Fini est... qui est quand même fondamental. Et puis Fini critique très vivement le racisme et la xénophobie de la Ligue. Quoi.
Ah bon ?
Donc il n'y a aucune perspective
D'accord.
possible. Surtout en ce moment, la Ligue avance ses pions parce qu'elle a gagné des points aux dernières élections. Donc elle veut en profiter, instaurer le fédéralisme fiscal, c'est-à-dire chaque région... dépense ce qu'elle touche en impôts, au lieu que ce soit réparti sur l'ensemble de l'Italie, quoi, entre régions riches et régions pauvres. Donc on est dans une situation très évolutive. Qu'est-ce que ça va donner ? Comment vont évoluer
Puis
les alliances ?
Berlusconi, il a un pied dans la Ligue, un pied dans le parti de Fini, alors. Il fait le grand écart, là.
Oui, ben, maintenant, il est surtout lié à la Ligue.
Ah, voilà.
Parce que sans la Ligue, il aurait 30, je crois que c'est 34% des voix.
Mmh.
Alors avec la Ligue qui en a 12, ça va. Mais ils ne sont pas dans le même parti, c'est deux partis séparés, hein, le PDL.
Oui,
et donc
oui, oui.
la Ligue actuellement fait pression pour faire passer ses revendications en disant « Attention, si vous ne les votez pas, moi je m'en vais ». Donc comme de l'autre côté, il y a une...
Il est pris un petit peu à son propre piège.
Et oui, normalement, on devrait avoir... S'il y avait une opposition solide, structurée et sachant bien ce qu'elle veut, je pense que le basculement du centre-droit au centre-gauche serait proche. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut dire pas encore le cas ? Mais on ne voit pas encore clairement quelle majorité viendrait remplacer celle de Berlusconi. Quoi. Donc voilà, on est un peu dans cette situation incertaine, évolutive. Comment ça va évoluer, c'est difficile de le
Mais ça va bouger.
En ce moment, ça bouge.
Voilà.
Ça bouge. Il arrive même que l'opposition arrive, du fait de ses contradictions du centre-droit, à faire voter des projets, etc. Donc, voilà, à mon avis, c'est un peu la caractéristique de la situation politique aujourd'hui, qui, à moyen terme, ne devrait pas favoriser le triomphe de Berlusconi. Qui fait, par ailleurs, n'importe quoi. Il vient de fonder son université près de Milan. Il a fondé une université pour former les jeunes dans, dit-il, l'esprit des idées libérales.
Ouais, je suppose que ce n'est pas gratuit.
J'ai pas les prix, mais non, c'est pas gratuit, c'est certain. Mais alors, son projet, c'est d'inviter les grands leaders européens à y faire des cours. Et le premier qu'il a invité pour faire un cours sur la défense des libertés, je te le donne en mille, c'est Vladimir Poutine.
Oui, d'accord.
Ce qui a provoqué dans les courants libéraux de droite et de gauche, d'ailleurs, il y a Il Foglio, qui est un organe libéral de droite, a réagi avec fureur contre l'idée d'inviter Vladimir Poutine faire un cours dans une université qui veut défendre les idées libérales sur la défense des libertés.
C'est un ancien du KGB, Poutine, non ?
Oui, non, mais puis enfin, c'est Poutine, quoi, la politique
oui, en plus.
Qu'il
oui,
mène
tout
actuellement
à fait. Bah oui, c'est
en,
pas
en Russie n'est pas tout à fait...
démocratique. Non.
C'est pas tout à fait caractéristique d'une politique de défense des libertés.
Non.
Donc, ça, c'est significatif de la... je dirais, l'inconscience politique de Berlusconi. Il s'en fout. Lui, ce qui l'importe, c'est l'image. On va faire venir des grands. Or, Poutine est un grand, donc on va le faire venir, y compris pour parler de la défense des libertés, ce qui fait hurler, encore une fois, les gens, et de droite et de gauche, qui ont un minimum de sens de ce qu'est la liberté au sens du mouvement libéral le plus traditionnel. Mais c'est même pas un libéral, Berlusconi. C'est un homme d'affaires qui est prêt à n'importe quoi, pour qui vraiment l'Italie, c'est... à être géré, ça doit être géré comme une affaire.
C'est un arriviste ambitieux.
Et qui réussit de ce point de vue-là, c'est pour ça que les Italiens
oui,
votent pour
à
lui.
Amasser beaucoup d'argent. Mais c'est quand même grave que des hommes qui sont sur le devant de la scène, qui devraient donc être là comme des exemples, puissent agir dans une telle impunité, je dirais morale, mais bon, au sens noble. C'est aberrant, quoi, qu'on en soit arrivé là.
Oui, mais alors, chaque fois qu'il est l'objet d'un procès, au moment de la démission de Scajola, il a encore crié que c'était le fait d'un complot communiste pour faire tomber son gouvernement.
C'est la commedia dell'arte.
C'est un comédien. Alors, de ce point de vue-là, il est beaucoup plus fort que son disciple Nicolas Sarkozy.
Oui.
Enfin, c'est lui qui dit que c'est son disciple, et je crois que c'est assez vrai.
Non, mais il est...
Mais
oui,
comme
il est
comédien,
vraiment...
il est beaucoup plus fort. Et il affirme des choses comme ça avec une telle assurance que encore un nombre considérable d'Italiens se laissent prendre à ce jeu sans se rendre compte de la réalité. Mmh. Et ça, c'est...
On retrouve presque chez lui cette espèce d'exagération de comportement qu'on trouvait dans les films italiens des années...
Ah mais tout à fait.
Hein ?
Ah tout à
des
fait.
Des années 60-70.
Ah tout à fait, mais c'est un bouffon.
Oui, voilà.
C'est un bouffon.
C'est de la bouffonnerie,
Et
ouais.
De ce point de vue-là, il a un certain génie. Il n'a pas de génie politique, mais il a un génie...
De la représentation.
Oui, voilà. et de l'image.
Et de l'image.
Qu'est-ce qui fait... Quelle est une des choses qui fait la force de son pouvoir ? C'est son contrôle des images, son contrôle de la télévision et d'une partie importante de la presse, des grandes maisons d'édition, etc. Et il joue là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Il n'y a pas de voix qui se fasse entendre largement. La censure à la télévision maintenant est très très rigoureuse. Il n'y a pas de possibilité d'expression des opposants à Berlusconi. Donc il n'y a pas de contradiction. Il affirme ces choses. Voilà, je suis l'objet d'un grand complot communiste de la part des magistrats qui sont pourris. Le seul qui réagit et qu'on est obligé de diffuser à la télévision, c'est le président de la République. Qui réagit très fortement. Actuellement, il n'arrête pas de réaffirmer, par exemple, qu'il faut fêter le 150e anniversaire de l'unité italienne, contre lequel la Ligue s'y oppose de façon radicale. Ça n'intéresse pas,
oui,
l'unité italienne.
C'est certain, oui.
C'est évident. Et Berlusconi, très, très, donc, très en mode, fondamentalement, il s'en fiche. C'est pas son truc.
Ça lui rapporte rien.
Oh non. Donc il dit c'est du temps perdu et de l'argent gaspillé. Et Napolitano, le président de la République, s'acharne. Il a encore fait un discours la semaine dernière. S'acharne à dire attention, c'est là que notre réalité s'est fondée et c'est ça notre référence. Et donc, c'est ni du temps perdu, ni de l'argent gaspillé. Il faut fêter amplement le... Donc, voilà un peu où en est l'Italie aujourd'hui, par ailleurs, dans une situation économique qui n'est pas bonne.
Mais oui,
c'est
pas le seul pays en Europe, oui.
On n'a rien à lui envier.
Oui, par les temps qui courent, là.
De ce point de vue-là. Mais
le profil bas.
Bon, c'est vrai que... Ouais. Quelles que soient les apparences et les affirmations, la gestion berlusconienne n'est pas meilleure que les autres gestions de ce type, quoi. Voilà. Bon, voilà. Écoutez une chanson.
Oui.
Et puis aujourd'hui, on va consacrer nos chansons à Venise.
Oui.
Parce qu'on va parler de Venise. Alors, on va écouter une première chanson du XVIIIe siècle. C'est une chanson qui s'appelle Vetteni Molto, et qui est une chanson d'amour du 18e, d'un auteur dont la musique et la poésie sont anonymes, mais il y a eu au 18e siècle énormément de productions de chansons qui sont restées, qui sont de très grande qualité et qui sont restées des classiques. Donc voilà, première chanson du 18e, Vetteni Molto.
Che da cento vien ciò per voi tutti al fin compatiria e sarà ciò per voi ma de te nasar credelo per la gran vostra ambizione questa è franca una lezione che imparata è da colui che imparata
Voilà un premier air du 18e, Veteni Molto. Donc, le chanteur est un baryton, Roberto Scaltriti, et l'accompagnement est assuré par le Johann Jacke Consort. Johann Jacke, qui est une jeune musicienne d'origine américaine, qui dirige ce groupe qui est composé de jeunes musiciens. Toscan. Donc, on a entendu violon, violoncelle, plusieurs flûtes, un hautbois, une guitare et des percussions.
Oui, c'est très beau et on retrouve un petit peu la légèreté de certaines mélodies de Mozart, un peu.
Il y a une ouais. Fraîcheur.
Oui.
Dans...
Oui, oui.
Et puis, c'est des gens qui avaient assimilé toute la musique
bien sûr.
Antérieure, Pergolèse,
oui, Monteverdi.
Oui, absolument. Et entre autres, cette musique qui a été
oui.
vénitienne.
Oui.
Quoi. Il y a une
oui,
grande
oui,
tradition.
Oui, oui, oui. Ouais, magnifique.
Vénitienne.
Ouais. Eh bien, on va parler de Venise.
Alors, Venise, le gros problème de Venise, on en parlait encore l'autre jour, c'est les hautes eaux.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait actuellement ?
Voilà. Alors, en fait, il y a un projet qui s'appelle le projet Mosé, qui peut être soit la traduction de Moïse, soit Modulo
Sperimentale Elettromeccanico.
Voilà.
Modulo Sperimentale Elettromeccanico.
Voilà, c'est cela. Et donc, ce projet est destiné à limiter justement le principal problème de Venise, c'est l'acqua alta. Donc, peut-être qu'avant de parler de ce projet, on pourrait peut-être un petit peu parler de la situation de Venise, de ses problèmes et comment elle s'est créée. Ça serait peut-être intéressant avant de situer un petit peu la fragilité et la situation de Venise. Alors donc, Venise s'est créée par les sédiments déposés par le Po, par plusieurs fleuves, donc l'Adige, le Piave, le Brenta, le Bacchiglione, le Sile et plein d'autres torrents qui ont formé naturellement des digues, des petites îles à l'embouchure des fleuves. Et c'est ainsi que la lagune de Venise est née. Et grâce à ses basses profondeurs, moins d'un mètre, quelquefois même, elle était naturellement protégée et donc c'était un endroit parfait pour se réfugier et se protéger des envahisseurs. Donc la lagune est un ensemble de, Jean, tu me corrigeras si je me trompe, 118 petites îles séparées par 177 canaux.
Oui, et ça fait 550 km².
Oui, c'est immense.
Oui.
C'est immense. Et c'est un... Voilà. Et aujourd'hui, donc, la lagune est raccordée à la mer Adriatique par trois embouchures. Il y a l'embouchure du Lido, l'embouchure
de Chioggia au sud.
Et puis l'autre s'appelle...
Malamocco.
Voilà, c'est ça.
Malamocco.
Hein, voilà, c'est ça. Et deux phénomènes sont observables. Il y a l'acqua alta, qui signifie eau haute et qui inonde les îles les plus basses, et l'acqua bassa, qui signifie eau basse et qui assèche les canaux les moins profonds. Alors, je vais donner peut-être quelques chiffres qui ont été donnés par Paolo Pizzaroli, qui est un géographe, oui, qui travaille au CNRS et qui s'est beaucoup intéressé à ce projet Mosé et qui en souligne les défauts, mais j'en parlerai plus tard. Alors, il donne des chiffres, par exemple, dans la décennie 1952-1961, il y a eu 15 fois des eaux de l'Alcoa Alta a atteint 15 fois 110 cm et une fois 130 cm. Mmh. Dans la décennie 1982-91, c'est passé à 25 fois 110 cm et 4 fois 130 cm. Et dans la décennie 1992-2001, c'est passé à 45 fois 110 et 4 fois 130. Donc on voit qu'il y a une progression dans le nombre des Alcoa Alta.
Et on prévoyait que si on continuait comme ça, en 2040, on aurait 460 inondations par an.
Voilà. Alors donc, en fait, le projet est né en 1966, lors de la terrible inondation qui a eu lieu cette année-là et qui a atteint 194 cm. Donc là, la ville a pris conscience des dangers à laquelle elle s'exposait et ils ont commencé à réfléchir à ce qu'il serait possible de faire pour freiner l'érosion, l'érosion du haut marais. Il faut dire aussi que l'action de l'homme a été particulièrement dévastatrice pour la lagune, puisque des canaux de 15 mètres de profondeur ont été creusés pour permettre aux tankers à la porte Malamoco de passer, alors que normalement les profondeurs sont très, très faibles. Ces canaux engendrent donc une pénétration bien plus rapide de l'eau de mer dans la lagune lors des marées, ce qui contribue à transformer la lagune en bras de mer et provoque une érosion dramatique des différentes structures de terre de la lagune, telles les barrenées, qui sont les bancs de sable.
Oui, alors les barrenées, c'est des étendues qui sont tantôt couvertes par l'eau à marée haute.
Oui.
Et il y a toute une partie de l'année où il y a deux marées hautes et deux marées basses par jour à Venise. Ça dépend des saisons. Mmh. Et puis, à marée basse, les barrenées sont légèrement, mais très très légèrement au-dessus de l'eau.
Voilà.
Et le problème, c'est qu'on a occupé beaucoup de barrenées quand on a, et c'est aussi l'action de l'homme là, c'est d'une part quand on a construit à partir du début du XXe siècle, il fallait moderniser Venise, il fallait industrialiser, donc on installe toute la zone de Marghera en particulier. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend des terrains sur les barrenées, c'est-à-dire on comble.
Qu'on solidifie. Qu'on y confige en fait.
Voilà.
Ouais.
Ensuite,
ouais,
il y aura la construction de l'aéroport,
ah ouais,
qui va prendre des hectares. On calcule que il y a des dizaines de milliers d'hectares qui ont été pris par les constructions de l'homme,
oui.
Donc
alors, oui,
l'occupation des barrenées. Et puis il y en a qu'on a fermé pour en faire des zones de pêche, pour que l'eau reste toujours.
Mmh.
Et donc, on y élève des poissons. Mmh. Là aussi, ça a diminué considérablement la surface de la lagune et donc la zone d'expansion des marées hautes, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, la conséquence, c'est un accroissement de 35 cm de profondeur des canaux, ce qui provoque un nivellement des fonds et supprime les canaux de faible profondeur. Et donc, le phénomène des marées est de plus en plus important. Et c'est pour ça, je le redis, que le phénomène des Alcoa Alta s'est considérablement amplifié ces dernières 40 années, tant du point de vue fréquence que d'intensité.
Mmh.
Il a été établi que la lagune perd 1 million de mètres cubes de sédiments par an.
Mmh.
Voilà. Mmh. Alors donc, j'en reviens à ce projet MOSEI.
Oui, j'ajoute sur sur l'action de l'homme.
Oui.
Pour industrialiser, pour faire fonctionner les industries, il fallait de l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été pomper l'eau des zones, des nappes souterraines.
Mm.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà.
On a fait abaisser Parce que si on pompe l'eau, la terre qu'il y a dessus va combler le vide.
Bien sûr.
Donc, on a provoqué un abaissement considérable. Alors ça, c'est fini maintenant,
oui.
Parce que ça a été interdit dans les années
50. Et cet affaissement, il est chiffré cet affaissement sur une période.
On l'a chiffré sur... on a chiffré que les puits avaient fait descendre la ville plusieurs centimètres, de quelques dizaines de centimètres, quelquefois. Donc, c'est
oui, parce qu'en fait, des puits ont été faits pour trouver de l'eau potable,
pour alimenter
la ville.
Et surtout
les industries.
Qui pompaient des dizaines de milliers de litres par jour. Mmh. Et donc, les puits artésiens qu'on a creusés, ça a été considérable, quoi.
Oui. Donc, il s'avère vraiment très important qu'une solution soit trouvée pour limiter justement les aqua alta et pour limiter l'action de la marée. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que Venise et sa lagune sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est l'UNESCO, conjointement avec les autorités italiennes, qui supervise les différentes initiatives pour... privés, en particulier celles des comités privés, dont le nombre dépasse la cinquantaine. Donc, ils ont tout... Voilà. Donc, ce projet-là a été surtout mis en place par l'UNESCO, les autorités italiennes. Voilà. Mmh. Alors, le projet conceptuel a été achevé en 89. Un projet préliminaire a vu le jour en 92. La construction devait débuter le 29 avril 2003, mais elle a été reportée. Et maintenant, la fin des travaux est estimée en 2014. 8 années de travaux seront nécessaires avant que les barrières soient opérationnelles et leur coût s'élèvera à 6 milliards d'euros.
Oui, alors à l'origine, il y avait 1,4 milliard,
voilà.
Puis on est passé à 3,7 milliards.
Oui, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup. Mais moi, je pense que c'est très bien, parce qu'il y a eu beaucoup de comités qui se sont élevés contre ce projet. Donc, il y a eu beaucoup d'études, de nouvelles pour apporter des éclaircissements sur plein de points. Mais ça, c'est pas plus mal, en fait. Mais enfin, bon, ça revient très cher.
Ça revient très cher, il y a encore aujourd'hui des oppositions très fortes.
Ah oui. Donc, je vais quand même expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, il s'agit de protéger Venise des aqua alta en fermant les 3 passes d'entrée par des barrières modulaires mobiles. Alors, ces barrières modulaires, il s'agit de 79 caissons modulaires constituant des barrières remplies d'eau qui reposent au fond des canaux d'entrée dans des loges creusées à cet effet. Ces barrières modulaires sont des caissons rectangulaires en béton enfouis dans le sol marin. Chaque caisson fait environ 20 mètres de large, 4 mètres d'épaisseur et en longueur représente 2 fois la hauteur moyenne d'eau de la passe dans laquelle il est installé. Chaque caisson est muni d'un couvercle creux rempli d'eau relié à sa base par des charnières. Lorsque les prévisions annoncent une montée du niveau de la mer au-delà du seuil de 110 centimètres, de l'air comprimé est insufflé dans ces couvercles, l'eau qu'ils contiennent est chassée en quelques heures et ceux-ci se soulèvent naturellement, remontant vers la surface et forment une barrière modulaire censée arrêter la marée.
Il faut entre 4 et 8 heures pour les mettre en...
Voilà.
Pour les remonter dans les projets.
Voilà.
Donc il
oui.
faut...
C'est très long.
C'est très long.
C'est très long.
Il faut prévoir à l'avance.
C'est une des critiques justement de l'opposition. Alors, ils prennent ainsi une position quasi verticale, un peu penchée, pas tout à fait verticale, et dépassent le niveau de la mer. Alors, bien visible, ils constituent un rempart contre l'eau de mer pendant la marée haute. Une fois les niveaux d'eau redevenus identiques côté lagune et côté mer, les modules sont à nouveau remplis d'eau de mer et rejoignent leur cavité au fond des passes. Alors, quelques petites caractéristiques. Toute la machinerie et l'alimentation donc passent par un tunnel immergé, l'air comprimé, l'électricité. Les modules pivotent indépendamment les uns des autres. En conséquence, l'étanchéité de la barrière est imparfaite. L'eau peut passer entre. En plus, les modules, alors au départ, les modules pouvaient osciller. Donc, comme ça a été une critique vraiment importante, ils ont depuis trouvé un système pour les bloquer. Voilà. Alors, le projet Moïse, donc, ou Mose, devrait être en service en 2014, mais on envisage déjà que l'élévation des eaux le rendra non fonctionnel d'ici 100 ans.
Peut-être même moins, voilà. Oui. Des experts.
Tout à fait. Mmh. Oui. C'est... Alors, Giuseppe Gambolati, de l'Université de Padoue, assure que son projet, qui pourrait soulever la ville de 30 cm sur 10 ans, prolongerait la vie utile de Mosée. Mmh. C'est un projet, sa proposition consisterait à injecter du gaz carbonique issu des centrales électriques, ou plus simplement de l'eau de mer, dans une couche de sable qui se trouve entre 600 et 800 mètres sous la lagune.
Oui.
Voilà.
On comblerait au fond, entre autres, l'eau douce qui a été retirée des nappes phréatiques.
Voilà. Donc ce projet est examiné, mais c'est quand même assez délicat. Donc il y a beaucoup d'études préparatoires qui doivent être faites.
Alors, il faut quand même...
Ifremer, enfin beaucoup oui. de... Oui.
Il faut quand même dire que les pouvoirs publics qui ont été complètement inertes pendant des décades après la guerre se sont remués, en particulier quand Massimo Cacciari a été maire de Venise. Et Venise reste, aux dernières élections, est restée gérée par le centre-gauche. On a fait nettoyer les canaux, ça n'avait jamais été fait.
Oui.
On a fait nettoyer des kilomètres de canaux, donc on les drague. Ce qu'on trouve au fond, d'ailleurs, est assez invraisemblable. Et on redonne aux canaux leur profondeur normale. Et puis, on en a profité pour enlever toutes les dalles des calli, des rues qui longent les canaux, en les numérotant pour les remettre au même endroit. Mais on les a surélevés de quelquefois 15-20 cm. Et on a monté une sorte de petit mur, la hauteur d'une pierre, donc de 20-30 cm. Ce qui fait qu'il y a une protection naturelle maintenant. Ça a été fait dans presque toute la ville. Et il y a un travail considérable dont les spécialistes considèrent que ça protégera de façon essentielle Venise, beaucoup plus que le Mosée, et que ça coûte 100 fois moins cher.
Bien sûr.
Parce qu'on a dépensé quelques dizaines de millions pour faire ça.
Oui.
Mais par rapport on ne sait combien de milliards va coûter le Mosée, etc.
D'autant plus que le projet Mosée aura un impact sur l'équilibre de la lagune. En ce sens qu'il supprime quasiment chaque fois que les barrières vont s'élever, il va supprimer les échanges entre la mer et l'eau de la lagune. Pendant des périodes, si les aqua alta sont de plus en plus fréquentes, ça sera de plus en plus fréquent. Ouais. Et pendant ce temps-là, l'eau de la lagune n'est pas renouvelée, ce qui peut faire souffrir l'écosystème de la lagune, qui est déjà fragilisé, parce qu'il y a les rejets urbains des villes qui ne possèdent pas de stations d'épuration, mais des fosses septiques mal entretenues, les résidus agricoles du bassin, les rejets des zones industrielles de Mestre et Marghera, et puis une algue qui s'est développée, l'algue Ulva rigida, prolifère, qui attire des nuées d'insectes.
Les moustiques, c'est terrible à certaines périodes.
Le taux d'oxygène a fortement diminué et la transparence de l'eau a chuté de 60% entre 1930 et 1996. Donc, Venise, c'est vraiment un milieu très fragile qui est très fragilisé par l'action de l'homme. Et peut-être avant de passer à des projets aussi pharaoniques que le projet Mosée, il y aurait peut-être d'autres choses plus simples à faire.
D'autant plus qu'il y avait d'autres projets qui ont été peu étudiés et qui auraient pu protéger.
Et à ce niveau-là, Paolo Pizzaroli, qui est géographe et chercheur au CNRS, il a un site qui est très bien actualisé, très bien informé. Et il fait remarquer que la mairie de Venise avait posé 11 conditions pour l'acceptation du projet Mosée et que celles-ci n'étant pas remplies en 2005, la ville de Venise a proposé plusieurs projets alternatifs que l'on peut consulter d'ailleurs sur le site de la ville de Venise. Voilà, donc Pirazzoli, prétend que les charnières des caissons ne seront pas expérimentées avant leur mise en place.
Non. Bon. Hein, c'est difficile.
Voilà. D'autre part, il met en évidence la possibilité d'oscillation non uniforme des écluses face aux vagues, qui permettrait d'impénétration de quantités importantes
d'eau. Selon la violence de la marée.
Voilà. Qui peut
le sirocco, etc.
Ouais, voilà. Et puis, il indique aussi une étude hydrodynamique effectuée par la société française Principia. Pour la mairie de Venise, qui a conclu que les écluses de Mosée deviendraient dynamiquement instables dans certaines conditions de houle. Le résultat d'ensemble, selon Paolo Pizzaroli, est que le projet Mosée se présente comme une construction inadaptée, très coûteuse et nuisible pour l'environnement. Il sera incapable d'assurer le maintien de l'écologie lagunaire sans pour autant empêcher les inondations. Surtout lorsque l'élévation du niveau marin aura dépassé, lui, il parle de 30 cm.
On va quand même écouter une chanson.
Mais oui.
Alors, une seconde chanson du groupe de tout à l'heure, air populaire vénitien du 18e. C'est une chanson chantée par un ténor et une soprano, un dialogue amoureux entre un homme et une femme. Toco Beta.
Tappata, tappata, tappata.
Voilà, avec ce tipiti, 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 tapata, pour la fille, tipiti. Tapata, tapata, tapata. C'était un joli dialogue d'amour en dialecte vénitien, évidemment, puisqu'on continue aujourd'hui, les chanteurs continuent à écrire en dialecte. Alors, on pourrait donner des quantités d'autres nouvelles de Venise. Bien sûr, il y a des milliers de choses à en dire.
Ah oui, c'est...
Mais deux autres exemples de changements qu'apporte la modernité. Un des projets, c'est de remplacer, et ça commence à se faire, les pieux en bois qui tracent les canaux, parce qu'il faut...
Oui, justement, ces pieux étaient destinés justement à... Ils dépassaient, donc
oui.
C'était pour indiquer qu'il n'y avait pas assez de fond.
Où pouvaient passer les bateaux,
voilà.
C'est aussi bien entre les îles...
Voilà.
Et...
Il y a un nom d'ailleurs, je crois que ça s'appelle des ducs de je ne sais pas quoi là.
Oui, le nom ne me revient pas. Ces pieux en bois, donc, on prévoit de les remplacer par des pieux métalliques qui seraient entourés de polyuréthane qui dureraient beaucoup plus longtemps et qui coûteraient moins cher. Parce que le problème est que l'eau entaille petit à petit les bois au niveau de la surface. Le mouvement de l'eau vient travailler le bois et il faut l'échanger très souvent, quoi. Et donc, ça coûte très cher. Et puis, un autre exemple, il y a depuis au moins 2005, un projet de creuser un métro qui passerait sous la lagune. Alors, qui partirait de l'aéroport, qui ferait 8,3 km de long, qui partirait de l'aéroport, qui arriverait à Murano, de Murano arriverait à Venise, et puis continuerait jusqu'à l'arsenal de Venise. 8,3 km...
Est-ce qu'un métro aérien serait pas plus...
On se demande, mais pour le moment, c'est un,
oui.
un projet. Ouais. Ça demanderait presque 6 ans de travail.
C'est un projet équivalent au projet du pont pour relier la Sicile ou...
Du pont pour relier la Sicile, c'est un des grands projets de Berlusconi.
Oui.
C'est d'une, d'après les experts, d'une totale absurdité.
Donc c'est un peu pareil, ça.
C'est un peu pareil, mais c'est significatif. On se dit que ça permettrait de transporter 6 millions de passagers dans l'année et que... Ça rendrait les transports très rapides entre l'aéroport et...
Si ça supprimait les canaux à moteur dans les canaux, ce serait très bien.
Non, ça supprimera une ligne de... Et il faudrait creuser à 20 mètres sous le niveau de l'eau. Donc, un travail...
Monsieur Pizzaroli a intérêt à,
oui.
à combler... Non, ce n'est pas Pizzaroli, c'est... je ne me rappelle plus son nom.
Berlusconi.
Celui qui veut combler, faire remonter le banc de sable.
Ah oui.
Il a intérêt à le faire avant. Oui.
Bon,
nouvelle
locale.
Oui, une petite annonce.
Voilà, on a un projet de concert, donc le 29 mai.
Voilà, alors c'est l'association Italie Norisère avec l'appui de la compagnie Saint-Germain de l'île d'Abo. Donc c'est un concert du trio Florimond avec Giacomo Anastasi. Il s'agit de chansons françaises et italiennes de Georges Brassens et de Fabrizio De André. Donc c'est le samedi 29 mai à 20h précise. À l'espace 120, centre social Colucci, 1 rue des Fouilleuses, à l'île d'Abo. Et je vous conseille de réserver votre place, car le lieu n'est pas très très grand.
L'espace 120, il y a combien de places?
120